11h sur Radio Campus Tours, bienvenue si vous nous rejoignez, auditeurs, auditrices. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui dans ce studio un nouveau chroniqueur. Bonjour Clément.
Bonjour.
Alors Clément, tu es venue avec une invitée, est-ce que tu veux nous dire de qui il s'agit ?
Eh bien d'accord, c'est Laure Mandreau, donc elle a créé la compagnie Prométhéâtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Prométhéâtre ?
Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Ravie d'être là. Merci de ton invitation, Clément. Je trouve ça très agréable de pouvoir te parler et puis peut-être satisfaire ta curiosité par rapport à pas mal de questions, je crois, que tu as préparées. Alors, le Prométhéâtre, c'est une histoire un peu particulière. J'ai fait un stage au Nouveau Théâtre d'Angers, qui a été un de mes lieux de prédilection pour me former. Et on a fait un travail sur un auteur contemporain qui s'appelle Heiner Müller, qui est très peu joué et qu'on connaît très peu, qui est un auteur est-allemand, puisqu'il écrivait avant la chute du mur de Berlin. Et il a écrit des choses absolument fabuleuses, et notamment une pièce autour de Prométhée. Et à la suite de ce stage, qui était pour moi déclencheur, eh bien, j'ai voulu, pour moi, Prométhée, enfin, tout le monde le sait, mais ça représente beaucoup en ce sens que Prométhée, c'est celui qui a transmis les arts, en fait, qui a permis les arts aux hommes en transmettant le feu, qui est donc fondateur aussi bien de l'art que des artisanats. Et pour moi, le théâtre, c'est autant un art qu'un artisanat.
D'accord.
Voilà, donc d'où Prométhéâtre.
D'accord. En parlant du théâtre, que représente cet art pour vous ?
Beaucoup. Il représente un peu toute ma vie. Et parce que je n'ai pas eu d'autres pratiques que le théâtre, bien qu'ayant fait des études dans plein d'autres domaines, puisque j'étais plutôt destinée au barreau. Mais c'est une autre scène, en fait, celle du théâtre. J'ai fait donc des études de droit et des études d'anglais. Qui m'ont d'ailleurs beaucoup apporté, puisque j'ai eu le plaisir de pouvoir être chargée de cours à l'université de Tours pendant 10 années, où j'ai dirigé les ateliers théâtre en anglais sur la période de tout le répertoire de Shakespeare, et puis donc des ateliers au niveau de la licence et des DEUG, au moment où ça s'appelait comme ça, je ne sais pas si ça a changé. Voilà, tout simplement parce qu'avec cette maîtrise d'anglais, je connaissais très bien les profs qui savaient que je pratiquais l'anglais couramment. J'avais fait une maîtrise sur le théâtre pré-élisabétain, donc voilà, c'était vraiment mon domaine d'élection. Et voilà, donc... C'est cette première formation-là qui m'a amenée, en même temps qu'une formation amateur, à m'intéresser au théâtre. Et j'ai commencé le théâtre dans un lieu un petit peu particulier, puisque je jouais d'un instrument folklorique. Et j'ai découvert à cette occasion Nohant, où mes parents habitaient, à 15 km seulement. Et dans cet endroit-là, chaque année, il y avait des groupes folkloriques qui préparaient ce qu'on appelle un livre vivant et qui cherchaient toujours des jeunes comédiens pour interpréter des rôles, titres. Et donc, à 14 ans, je me suis retrouvée sur scène et ils m'ont dit « Ah oh, oui, tu as l'air de bien aimer. » Ah oui, j'ai bien aimé, j'ai tellement bien aimé qu'après, eh bien, j'ai fait le conservatoire de Tours, puis suivi des études à Paris au Centre américain. Et j'ai aussi exercé dans un lieu qui s'appelait La Forge, où on accueillait une multitude de stages AFDA. Voilà, donc j'ai pu avoir vraiment une formation, si ce n'est complète, en tout cas très, très diversifiée et passionnante, avant de fonder un atelier théâtre à Tours et de fonder bien plus tard ma compagnie, le Prométhéâtre. Voilà, en très court.
Avez-vous un modèle par rapport à votre art ?
Je ne peux pas dire que j'ai un modèle. Je trouve que c'est important de s'informer de tout ce qui se fait, mais c'est important de trouver sa voie, de répondre plutôt à une impulsion intérieure par rapport à déjà à des choix de texte qu'on a envie de défendre, et puis sa manière à soi de les dire, de les mettre en scène. Donc, bien sûr, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Éloi Recoin ou des metteurs en scène comme Vitaise. C'est un petit peu... sans dire que c'est passé, parce que les écrits de Vitaise restent vraiment très, très intéressants. Mais bon, il a fait des mises en scène il y a de nombreuses années. Donc, il y a des mises en scène phares comme ça, qui sont des références. Mais je crois qu'il faut les connaître à titre d'information, parce qu'ils font partie de l'histoire du théâtre. Mais il faut chercher sa voie propre. Voilà.
En étant comédienne, vous êtes également metteur en scène. Quelle est la pièce que vous avez le plus aimé mettre en scène ?
Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Enfin, dans les débuts de mon travail de mise en scène, j'ai travaillé avec le Charivari Théâtre, avec lequel je travaille toujours. C'est une troupe amateur avec des gens de bon niveau, puis qui s'attaquent à des textes qui m'intéressent. Et avec eux, j'avais monté, c'était mon premier spectacle, La Nuit des Rois de Shakespeare, dont je garde un souvenir absolument impérissable, parce que c'était très audacieux de ma part de me lancer dans un Shakespeare pour une première mise en scène. Mais elle a eu beaucoup de succès. On l'a joué une quarantaine de fois, ce qui est énorme pour une troupe amateur. Généralement, on joue 2-3 fois, puis on s'arrête. Là, on l'a donné dans des lieux, dans des châteaux. Enfin, on a bougé avec cette pièce. C'était complètement étonnant. Et puis après, j'ai monté « On ne badine pas avec l'amour » de Musset, qui est un texte vraiment prodigieux, magnifique. Donc, il y a beaucoup de textes que j'ai aimé mettre en scène parce qu'à partir du moment où on aime le texte, on aime le mettre en valeur et ça reste des souvenirs magnifiques. Donc ça, c'est avec une troupe amateur. Et la première mise en scène que j'ai faite avec ma troupe professionnelle, c'est un texte qui s'appelle « La paix du dimanche ». Et pareil, j'ai travaillé avec des jeunes scénaristes, je ne dirais pas scénographes plutôt, c'est ça que je voulais dire, qui ont fait leur première mise en scène, leur première scénographie, en même temps que je faisais ma première mise en scène vraiment professionnelle. Voilà, donc ça reste un souvenir. Et puis une pièce que j'aime beaucoup parce qu'elle parle de la révolte d'un jeune homme qui, en fait, n'a pas vécu la guerre. Et il se sent une espèce de loser, il n'a rien à défendre, il arrive dans une société un peu consumériste. Et donc, il y a un problème de sens qui se pose vraiment à son existence. Donc, il embête un peu tout le monde avec ça. Et c'est une rébellion de jeune homme que je trouve encore très, 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 très moderne et très intéressante, bien que ça soit une pièce des années 70. Voilà.
D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé d'endroits insolites où vous avez pu jouer. Y a-t-il un endroit dans lequel vous aimeriez vraiment jouer ?
Je ne me suis pas vraiment posé la question. Je peux plutôt évoquer des endroits où j'ai été surprise d'aller jouer. Je ne me dis pas, tiens, ce serait bien que je joue au Palais des Papes à Avignon. Ça ne me préoccupe pas tellement, en fait. C'est plutôt les rencontres qu'on fait qui vont occasionner un travail dans un lieu. Donc, je n'ai pas de rêves spéciaux par rapport à ça. Mais avec le Charivari, on a vécu des choses complètement étonnantes puisqu'on a quand même donné des représentations d'un travail que j'avais fait sur les snobs chez Molière. Et on a eu le plaisir de le jouer à Chambord, voilà, où Molière lui-même a présenté des pièces. Et puis, avec un autre texte qui s'appelle « L'Assemblée des femmes d'Aristophane », eh bien, on a joué à l'Opéra Bastille au moment du 50e anniversaire du droit de vote des femmes, puisque c'était le spectacle que j'avais mis en scène. Il y avait à ce moment-là, en France, 4 metteurs en scène qui proposaient ce spectacle. Et il y a un groupe de femmes qui cherchaient et qui voulaient présenter cette Assemblée des femmes, qui est une révolte des femmes contre la politique des hommes et la manière dont ils gèrent la cité. Et donc, elles cherchaient une mise en scène qui puisse les convaincre. Et elles ont choisi celle que j'avais faite. Et on s'est retrouvés avec Yvette Roudy, avec... elle était ministre de la condition féminine au moment. Enfin, voilà, une chose improbable. Avec Lucie Aubrac, qui était là aussi. Et on a terminé ensemble sur scène avec cette dame extraordinaire. Voilà, donc ça, c'était l'Opéra Bastille. Et ça, c'était un vrai cadeau, quoi. Voilà.
D'accord, c'est... passionnant de pouvoir autant voyager comme ça, dans des endroits insolites.
Oui, 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 c'était totalement imprévu. Et donc, c'est ça que je trouve très chouette, c'est de se dire, on fait son travail. Et puis, le travail qu'on fait, il trouve sa voie aussi dans des lieux tout à fait imprévisibles en fonction des rencontres qu'on fait. Voilà.
D'accord. Je voudrais savoir si c'est possible de pouvoir lancer Le Cran Bleu de MC Solar.
Alors on va écouter cette pause musicale de ton choix. Clément, est-ce que tu veux dire un mot à nos auditeurs? Pourquoi tu as envie de nous faire écouter ce morceau-là?
Le Cran Bleu de Soprano et MC Solar, c'est une musique qui me tient vraiment à cœur. Elle a des très belles paroles et c'est une musique qui parle notamment d'amour, qui est vraiment belle.
Alors on écoute Le Cran Bleu sur Radio Campus Tours, c'est le 99.5 FM. On se retrouve tout de suite après pour poursuivre cet échange avec Laure Mandreau de la compagnie Promet Théâtre.
Ses amis l'appellent Phil, naufragé d'un amour impossible, plongé dans l'ivresse pour mieux noyer son idylle. Il avait jeté l'ancre sur l'île de son pessimisme, persuadé que Cupidon ne l'aurait plus pour cible. Mais c'est mal connaître les vents marins, venu de l'est, une sirène chanta son chagrin. Son regard était d'un bleu océanique, au fond on y voyait les carcasses de plusieurs Titanics. Mais pour ses yeux il prit la mer, brandit les tempêtes, un pirate à la conquête, un trésor que même les corsaires n'ont jamais pu piller. En elle brillait le mystère des plus belles pierres. Contre vents et marées, il mène sa barque malgré les vagues moments de vie, il rêve d'amarrer sur le port de cet amour insensé. Malgré le danger, il rêve de plonger dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux, dans les abysses d'un regard antarctique, à la recherche d'un amour chimérique. Quoi qu'ils disent, il est pris dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux. Il trinque à l'amour en buvant la tasse, quitte à ne plus remonter à la surface de ce grand bleu.
Soprano, j'en tremble, elle est lestée dans le grand bleu, dans des fonds marins, attachée par une sangle. C'est une princesse sans le lys et sans le semble, d'essence ordinaire, elle est super, il me semble. Lui fait le mat à la tête, il est dans la délinquance, elle veut de la délicatesse. Puis dans la vague de l'époque, il porte un Glock non-stop. Qu'importe, l'Odyssée ne sera pas Pénélope. Non, elle lui a parlé avec loyauté, a révélé en lui une sorte de royauté. Coup de chance ou de hasard, seul Poséidon sait, mais de tout son gang était noyauté. Le juge les condamne à s'entendre, car les contraires s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. J'ai saisi le sens de cette sentence insensée, grâce à sa clémence, il rêve de plonger dans le grand bleu,
noyé dans ses grands yeux, dans les abysses d'un regard antarctique, à la recherche d'un amour chimérique. Quoi qu'il dise, il est pris dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux, il trinque à l'amour en buvant la tasse, quitte à ne plus remonter à la surface.
Pas l'homme qui prend la mer, mais ses grands yeux bleus. Elle dessine des arcs-en-ciel sur ses tas de bleus. Elle est le tsunami de son cœur en feu. Pour cet amour aride, dans ses yeux il pleut.
Elle peut être le briquet dans la guerre du feu. Faire d'octobre rouge juste une ère de jeu. Et que le casting vu dans Rambo 2 rende les armes à ses grands yeux bleus.
FM, Radio Campus Tours, c'est la Méridienne. Et auditeurs, auditrices, vous venez d'écouter Le Grand Bleu, Soprano et MC Solar. C'était le choix de notre chroniqueur Clément. Rebonjour Clément.
Rebonjour.
Et alors, je te donne la parole pour poursuivre ton entretien avec ton invité, Laure Mandreau, de la compagnie Promet Théâtre.
Merci. Donc, tout à l'heure, nous avons pu évoquer que vous aviez mis en scène plusieurs pièces. Est-ce que vous auriez des dates à venir ou en cours actuellement?
Alors actuellement, je vais parler un petit peu de ce que j'ai fait cette année et puis ce que je compte faire l'année prochaine. Cette année, je me suis beaucoup consacrée en fait à Balzac, qui est un auteur que j'adore. Et j'avais remarqué qu'en fait, je ne connaissais pas du tout les nouvelles de Balzac. Je connais ses romans assez bien, mais alors les nouvelles, je ne savais à la limite pas qu'il en avait écrit. Voilà, donc j'ai fait l'adaptation de 6 nouvelles qui ont été présentées chaque mois lors de, en fait, ça s'appelle une lecture spectacle, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas le texte parce qu'on proposait qu'une seule fois. On n'apprend pas le texte, mais bon, quand on est un comédien un petit peu exercé, avoir un papier, ce n'est pas gênant pour quand même vraiment être très expressif et intelligent dans la manière dont on gère la parole papier en main, voilà. Et dans cette suite-là, et en corrélation avec cet auteur-là, moi j'ai une prédilection pour quelqu'un qui s'appelle George Sand. Je parlais tout à l'heure des premières expériences de théâtre que j'ai eues. Ben, c'était effectivement dans la cour de Nohant, qui est la maison de natale de George Sand. Pas natale, parce qu'elle est née à Paris, mais en tout cas, elle a vécu très, très longuement à Nohant. Et je suis très imprégnée, en fait, de ses écrits depuis que je suis toute jeune. Voilà. Et je trouve que c'est une femme complètement fabuleuse, déjà. C'est quelqu'un donc, qui a vécu au 19e siècle, qui était une femme extrêmement indépendante et libre, qui a même s'est débrouillée pour arriver à divorcer d'un homme que la musique ennuyait et qui, dès qu'il lisait une ligne, tombait en sommeil. Donc, cette femme éprise de liberté, qui écrivait, qui aimait, qui c'était pas possible qu'elle reste avec ce type, quoi. Voilà, et donc elle a pris en main son destin et elle s'est quand même vraiment forgé un itinéraire qui est assez exceptionnel, autant que son œuvre qui est très très diversifiée. Il y a notamment ses écrits autobiographiques, ses lettres aussi, une correspondance inouïe, énorme, qui fait 16 ou 17 volumes. Enfin voilà, donc c'est une sacrée bonne femme. Je pense qu'elle elle vit comme nous vivons actuellement, sauf qu'elle, elle n'avait pas Internet, elle n'avait pas les réseaux, elle n'avait pas tout ça, et elle avait un réseau absolument énorme. Elle écrivait des lettres dans toute l'Europe, elle avait des amis dans toute l'Europe, elle voyageait dans toute l'Europe, donc vous imaginez quand même qu'elle, elle était dans des voitures et à la fin de sa vie seulement en train. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. Voilà. Et donc, j'avais envie de la faire connaître davantage parce qu'elle est presque encore considérée parfois comme un auteur régionaliste, alors que c'est un des plus grands auteurs du 19e siècle. Balzac, qui était assez misogyne, l'appelait « mon camarade » parce que lui, il considérait que le génie ne pouvait pas être féminin, donc il l'appelait « mon camarade ». Mais c'était une manière de dire, ben quand même, vous êtes une femme, mais vous en avez, quoi. Hein, vous êtes comme les hommes. Et donc, il y a eu une correspondance entre eux que j'ai eu le plaisir de donner une seule fois à la bibliothèque de Tours lors d'une commande en 2019 de la mairie, hein, qui fêtait un anniversaire Balzac. Et j'ai pu mettre en scène la correspondance entre Balzac et George Sand. Donc on va commencer notre année au mois d'octobre avec, hein, en charnière entre l'année Balzac que je viens de terminer et puis l'année George Sand que je vais inaugurer en octobre. Eh bien, on va commencer par cette correspondance qui est une lecture-spectacle avec du décor, etc., qui sera donnée dans notre petit lieu. On travaille beaucoup, en fait, là où on fait nos répètes, c'est-à-dire dans les locaux du patronage laïque La Riche Lamartine, qui a une petite salle installée qui s'appelle la salle Inventaire, rue Courteline, endroit également où je donne des cours de théâtre. Donc, si on veut parler des stages tout à l'heure, on pourra le faire. Mais dans cette salle dans laquelle il se passe énormément de choses, eh bien, on va donner non seulement ce spectacle-là en inauguration d'année, mais une fois par mois, un texte de George Sand méconnu. Et elle aussi, elle a écrit des nouvelles ou des petits romans, dont certains, je ne les ai pas tous lus, donc ça va être un peu le boulot de mes vacances, de déterrer des pépites chez cet auteur que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça va être une partie du programme. L'autre partie, et ça a toujours été, c'est un travail de pédagogie et de formation. Depuis de nombreuses années maintenant, le Promet Théâtre a un missionnement du conseil départemental pour aller dans les collèges, aider à déjà lire, parce qu'on s'est aperçu que dans les premiers niveaux et même parfois jusqu'en troisième, la lecture, c'est un exercice qui peut être difficile. Donc, il y a des ateliers qu'on peut proposer qui sont autour de ce thème-là. Et puis, on propose aussi des lectures théâtralisées autour d'auteurs extrêmement divers. Ça peut être autour de thèmes comme l'enfance, ça peut être aussi les brouilles et querelles au théâtre. Voilà. Donc, il y a une activité de formation qui est importante, ou la préparation aux oraux, tout simplement, de troisième qui ont lieu, puisque là, c'est des interventions en collège. Et on intervient aussi au niveau des lycées, suite à la dernière création du Premier Théâtre qui s'appelait « Tout se vend, même le vent », et donc qui, par rapport à Balzac et Georges Sand, les auteurs du 19e siècle, est vraiment, là, pour le coup, une œuvre très contemporaine, puisqu'il s'agit de Yannick Nédélec, qui est un slammeur très connu sur la place de Tours et même au niveau français, puisqu'il a eu de nombreux premiers prix. Enfin, il a été champion de slam plusieurs fois. Voilà. Et d'ailleurs, il va se produire lui aussi le 22 juin dans peu de temps. Mais il écrit donc non seulement des slams, mais des fables et également des spectacles. Et donc, ce spectacle-là donne lieu à pas mal de questionnements. Ce qui fait qu'on est demandé dans les lycées pour justement parler des questions d'environnement, puisqu'il a mis en scène en fait une PDG que je joue, qui elle est absolument intraitable. Et cette PDG, elle vend en fait des flacons d'air pur. Et donc, elle défend son truc, tout le monde s'arrache ses flacons d'air pur, et donc elle reçoit finalement, après pas mal d'essais de sa part, un journaliste qui la tanne pour lui demander, mais en fait, madame, qu'est-ce que vous pensez de l'accaparement des ressources naturelles? En fait, vous, pas la PDG, vous, madame, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on peut faire de l'argent avec l'air? Est-ce qu'on peut se permettre de vendre de l'air alors que c'est un bien qui appartient à tous, qui est bien, malheureusement très, très endommagé, hein, la pollution actuelle le prouve bien. Voilà, donc en fait, il y a des débats énormes qui sont lancés à partir de ce spectacle. Et donc, les interventions qu'on a, on est intervenu très récemment au lycée professionnel Bayet pour lancer un peu cette question. Est-ce que tous les produits de consommation sont des produits intéressants? Et du coup, comment est-ce qu'on consomme? Est-ce qu'il ne faut pas regarder à deux fois entre toutes les pubs qui nous arrosent et ces produits certainement inutiles, voire polluants? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un petit peu de discernement et réfléchir un tout petit peu à la société qu'on veut au travers de nos modes de consommation? Voilà, donc ce spectacle-là va vraiment très loin. Et cette année, j'espère qu'on aura la possibilité de le donner dans beaucoup d'endroits. Voilà, donc on prospecte dans cette perspective, au moins dans toute la région. Voilà.
D'accord. Tout à l'heure, vous avez pu parler de stage. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus par rapport à ça?
Alors, il y a effectivement le Premier Théâtre et ses formations au travers de ce qui est dispensé avec l'aide du conseil départemental. Pour tout ce qui est des personnes qui viennent nous trouver pour des stages, il y a un autre lieu dans lequel j'exerce également avec Clara Chevalier, qui est animatrice, comédienne animatrice dans ce lieu. Il s'agit du Petit Théâtre, qui est dans le même lieu que nous. Et on y donne donc des ateliers pour les enfants de 3 à 5 ans, 6, 8 ans, 9, 11, 11, 13, ados, adultes. Il y a même deux ateliers adultes. Donc, il y a entre 100 et 110 jeunes et moins jeunes qui viennent s'ébattre sur la scène du P3L et du Petit Théâtre donc toute l'année. Et on propose également des stages qui, cette année, vont avoir lieu entre le 15 et le 19 juillet. Et qui s'adresse là aux tout petits. Donc, il y a des enfants qui ont entre 4 et 6 ans. Et après, un groupe de 7-12 ans et un groupe ado cette année. Et il n'y avait pas de stage proposé aux ados. Mais cette année, on s'est dit, ils ne vont pas être laissés pour compte. Il y aura aussi un atelier pour eux, de 18 à 20 heures, entre le 15 et le 19 juillet aussi. Voilà. Donc, sur le site du Premier Théâtre, on va mettre un lien parce que souvent, on nous téléphone au Premier Théâtre pour nous demander des formations. Et ce n'est pas vraiment nous qui les dispensons, en tout cas pas avec le Premier Théâtre, mais avec le Petit Théâtre. Donc, on peut taper le Petit Théâtre, stage, tour, voilà. Et on trouve très facilement le site du Petit Théâtre également. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous auriez des réseaux sociaux sur lesquels nous pourrions vous suivre pour l'actualité ou autre ?
Alors oui, on a un Facebook, donc je ne connais absolument pas l'adresse parce que je ne m'en occupe pas du tout. Voilà, mais c'est vraiment trouvable sur le site. Il y a pas mal de choses qui sont quand même indiquées. Donc oui, où sommes-nous sur Facebook ? Ça, évidemment, je crois que c'est à peu près tout. Je ne vois pas trop ce qu'on irait faire sur LinkedIn ou des choses comme ça. Voilà, alors on pourrait être plus branché pour aller, je crois qu'il y a des réseaux sociaux beaucoup plus jeunes, mais pour l'instant, on essaie d'être plus dans la création de ce qu'on fait que dans la communication, il faut le reconnaître. Voilà.
D'accord. Une dernière question. Est-ce que vous auriez des événements d'actu que vous voudriez partager ?
Oui, il y en a deux et malheureusement, ils sont le même jour. Il y a la Ligue Slam qui fait son championnat au Grand Théâtre. Donc, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Donc, il y a possibilité de prendre des places l'après-midi. Et donc là, je crois que c'est les concours en individuel. Ce qui est super avec le Slam, c'est que bien sûr, il y a l'idée du vote, etc. Mais le jury, c'est le public. C'est pas un jury de professionnels du spectacle ou autre qui viennent et qui décident que monsieur Intel a très bien interprété tel poème qu'il a écrit. Non, c'est le public qui devient jury et qui va estimer par rapport à sa sensibilité quel candidat répond le plus à ses attentes ou le surprend davantage. Donc l'après-midi, on peut très bien y aller de 14h30 à 18h. Moi, je vais moi-même y aller. Et le soir, ce sera plutôt la soirée débranchée à laquelle je souhaiterais beaucoup aller, qui a lieu donc le 22 juin. Alors tout ça, c'est le 22 juin 2024. Cette soirée débranchée, eh bien, c'est un événement très, très particulier qui a lieu au dolmen de Saint-Antoine-du-Rocher. Donc, c'est route du dolmen dès 18h. Et là, on est convié à des cercles de chant, à une criée. Donc ça, c'est une comédienne qui harangue la foule présente. J'espère qu'il y aura du monde. Il y a évidemment de la musique, du conte. Et il y a même une partie de scène ouverte. Donc ceux qui se sentent des talents ou des envies de partager une chanson, un poème, peuvent parfaitement venir. Le prix est libre. Donc si on n'a pas beaucoup d'argent, eh ben, on ne donne rien. Si on est enthousiaste et qu'on a un petit peu d'argent, ben, on donne quelque chose. Voilà, donc j'aime bien l'état d'esprit de cette jeune compagnie qui s'appelle Belluette et qui vraiment est à suivre parce que c'est des gens d'une immense générosité qui ont un élan de travail et un élan vers les autres, d'ouverture que je trouve magique. Voilà, j'avais assisté avec eux à une nuit du conte, même 2 années de suite. Et c'était un très gros investissement de leur part et c'était dans une propriété privée de gens qui avaient complètement ouvert leur jardin et leur forêt. Et donc, je pense que l'état d'esprit n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on peut apporter son tapis et puis on peut se coucher et écouter les contes et les chansons et voilà, et être en partage sur ce moment, sur cette soirée qui sera, à mon avis, plutôt une nuit. Voilà, donc allez vite le 22 juin à la soirée débranchée à Saint-Antoine-du-Rocher avec Belluette.
D'accord, je vous remercie de ce partage. Nous pourrions peut-être écouter Infirmière de Fauve, qui est une musique qui est en rapport avec mon vécu, que je trouvais également très belle et que j'aimerais partager aux auditeurs.
C'est parti sur Radio Campus Tour, on écoute Fauve, le choix de notre chroniqueur. À tout de suite.
J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Quand je me demande ce que je fous ici, que je colle ma tête pendant des heures sur l'oreiller. Tétanisé, assommé, incapable de rien. J'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de faire comme si tout me glissait dessus. J'en peux plus d'entendre les sirènes, même à travers le double vitrage. Thank you.
prend les mêmes et on recommence. Je m'étais décidé à sortir parce que je supportais plus d'être chez moi. Je suis allé rejoindre des gens dans un de ces pubs irlandais merdiques qu'on trouve sur les grands boulevards. À une table sur ma gauche, il y avait un groupe de filles, dont une qui m'a tout de suite plu. Elle était un peu mate de peau, mais avec des cheveux châtain clair, ou blond foncé, je sais jamais. Mais surtout, elle avait l'air douce, bienveillante et sereine, comme si elle avait pas renoncé à rien, comme si elle avait jamais douté de la beauté du monde, ni de celle des hommes. Je me suis fait quelques films, osés mais jolis, restait tout de même à établir le contact, ce qui est impossible à faire en réalité, on nous le fait croire dans les films, mais c'est une vaste arnaque. Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué. J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien. Que tu refasses mes stocks de sérotonine. Que tu me dises que c'est rien. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant. Mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis. Et dans la nuit, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va, on vient. On s'éloigne et on revient. Puis tu t'élances et je te tiens. Je te retiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va, on vient, corps contre corps, main dans la main. Plus rien n'existe, plus rien de rien. Quand je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Je me suis fait tirer de mes pensées de la pire façon possible. Une grande plaque sur l'épaule, le truc que je déteste, envoyé par un genre de rugbyman pas très discret, un gars que je connaissais un peu. Alors ça va l'artiste, il me dit, les amours, tout ça. D'ailleurs au concert tu dois bien te faire plaisir mon salaud. Le genre de chose qui met tout de suite super à l'aise, qui te rapproche encore un peu plus de l'eunuque dans son harem. Je lui réponds que ça c'est soit un mythe complet, soit c'est moi et mes petits camarades qui sommes des manches. Évidemment il se met à me charrier, il me dit que c'est pas possible, que j'ai un problème, que je suis pédé. Pauvre vieux, si tu savais combien de fois je me suis posé la question, sincèrement. Qu'est-ce qui déconne chez moi? Pourquoi dès qu'il y en a une qui est gentille, je me barre en courant? Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué. J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu me dises que je suis hors de danger, que mon état va s'améliorer. Que tu passes ta main dans mes cheveux, que tu prennes ma vie pour en faire quelque chose de mieux. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant, mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis. Et dans mes nuits, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va, on vient. On s'éloigne et on revient. Puis tu t'élances et je te tiens, je te retiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va, on vient. Corps contre corps, main dans la main. Plus rien n'existe, plus rien de rien. Quand je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi.
J'ai besoin de toi comme d'une cigarette ou d'un verre à chaque fois que je dois sortir dans la foule. Je me dis que ça peut pas être comme ça, qu'il doit y avoir autre chose. Jusqu'ici, j'ai pas trouvé des tas de raisons d'exister. Mais j'ai besoin de croire en quelque chose de profond, de solide. J'ai besoin d'être porté par un espoir. Je voudrais faire l'effort permanent et sublime. Je voudrais être à tes côtés, simplement. Pour que la vie ne puisse jamais me mettre à genoux.
J'ai besoin de toi comme d'une infirmière, que tu m'aides à trouver le sommeil, qu'on se réveille dans des draps blancs, que tu me dises que c'était qu'un mauvais rêve, que tout ça c'est derrière moi maintenant. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant. Je me force à croire qu'avec du temps tu changes d'avis. Et dans mes nuits je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va, on vient. On s'éloigne et on revient. Puis tu t'élances et je te tiens. Je te retiens du bout des doigts pour te ramener moi. Sur la musique, on va, on vient, corps contre corps, main dans la main, plus rien n'existe, plus rien de rien. Quand je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi.
C'était Chauve sur Radio Campus Tour, infirmière, et c'était le choix de Clément. Merci à toi de nous avoir proposé cette belle pause musicale.
Bah, merci à vous, et également merci à Laure Mondreau qui a répondu à mes questions avec toute sa connaissance. Je me tourne maintenant vers le public. Est-ce que vous auriez des questions?
Oui, moi j'aurais une petite question pour vous, Laure Mondreau. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un d'un petit peu timide comme moi pour lui donner envie de faire du théâtre? Alors, déjà, je crois que c'est important de se dire qu'on est vraiment déjà une personne unique et que souvent l'écueil, c'est qu'on a peur d'être jugé et qu'on se compare inconsciemment à d'autres personnes. Et ce que j'essaie de faire, en tout cas moi, dans mon atelier, après, ça ne veut pas dire qu'on arrive à faire la démarche, mais en tout cas, ceux qui viennent et qui me disent « moi, je me sens un petit peu en retrait et tout ça », pour moi, c'est par le biais de la prise de confiance, des exercices qu'on fait, qui mettent en jeu, mais pas en danger. Et au fur et à mesure, par les exercices qui sont proposés, on s'aperçoit qu'on peut parler, on s'aperçoit qu'on peut improviser, on s'aperçoit qu'on peut toucher quelqu'un d'autre, sans avoir tout un tas de filtres qui se mettent là, qui viennent nous polluer, que la relation à l'autre peut être très très simple parce qu'elle est sécurisée et il faut vraiment, en tout cas quand on va dans un atelier, s'assurer qu'on est sécurisé. C'est-à-dire que la personne qui dirige est une personne qui sait ce qu'elle fait et que son objectif, c'est vraiment que chacun se sente à l'aise et puisse faire les choses à son rythme. Voilà. Alors, après, si on ne franchit pas le seuil, on ne peut pas aller chercher les gens, c'est une évidence. Mais moi, j'aime beaucoup laisser l'espace au moins de 2 séances aux personnes qui viennent dans le cadre du petit théâtre. Parce que je trouve que quand on dit « allez, une séance d'essai, puis après vous inscrivez », non, au théâtre, c'est trop court. Il faut 2 séances pour dire d'abord ben, c'est quoi le groupe qui va se stabiliser en début d'année. Est-ce que ce que cette dame propose, moi, ça me convient? Une fois, c'est un peu court. Ça peut très bien être différent la deuxième fois. Donc voilà, moi, je laisse 2-3 fois, on vient. Et puis quand on est prêt, alors évidemment pas en plein milieu du deuxième trimestre, mais très rapidement, avant les vacances de la Toussaint, puisque nous, on commence le dernier mercredi de septembre, ben, au bout de 2-3 fois, on sait si on a envie d'être là pour l'année ou pas. Voilà. Et j'attache beaucoup d'importance à cette liberté. Donc, les gens, ils me donnent juste leur nom, leur prénom. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour démarrer. Et après, une inscription qui n'est pas lourde non plus. Hein, mais où là, j'ai une fiche d'inscription pour la personne. Mais avant, elle vient librement. Si elle est au bout des 3 séances, elle dit « c'est pas pour moi » ou « je ne peux pas » ou « j'ai trop de boulot ». Très bien. Voilà. Donc, c'est déjà permettre un accès facile, évident, que ça soit pas déjà le truc « Ah, si je viens à la première séance, est-ce qu'il faut que je paye à la deuxième ?» Enfin, on va pas rajouter du stress à des personnes qui, justement, ont besoin de tester les choses, de savoir si c'est pour elles, si le lieu leur convient et la personne. Voilà.
D'accord, d'accord. Merci pour cette réponse. Est-ce que, du coup, pour vous, il y a des qualités requises, du coup, pour faire du théâtre ?
Aucune. Aucune. Je pense que toute personne a les qualités, donc il n'y a pas de qualité spécifique à avoir. Il faut, pour moi, au théâtre, il faut déjà de l'authenticité. Il y a des personnes qui viennent parfois me trouver, qui ont de l'expérience. Et bien, parfois, je ne suis pas intéressée par leur travail. En ce sens que j'ai envie qu'ils enlèvent des couches plutôt que d'en rajouter. Et justement, je dis toujours aux personnes qui viennent et qui démarrent, je dis, vous avez beaucoup de chance. Démarrer, c'est prendre ses marques et prendre son temps pour évoluer, pour mieux se connaître, pour mieux savoir gérer. Par la connaissance de soi, on gère mieux. Et puis, par les exercices, on prend du recul, on a un peu d'humour sur soi, ça aide beaucoup. Et on acquiert une espèce de confiance qui fait qu'on va parler juste parce qu'on est à sa place. Donc moi, les acteurs qui en font des tonnes, j'ai horreur de ça, en fait. Je trouve, surtout pour des ateliers, qu'il faut partir de sa sensibilité, s'accepter comme on est. Bien sûr, parfois, c'est intéressant de faire des retours par rapport aux exercices qu'on peut donner. Moi, j'aime bien dire, après un exercice, dans quoi vous sentez-vous le plus à l'aise ? Et on peut tester des sentiments, des émotions, où on dit « oïe, 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 je suis un peu, j'ose pas, j'ai pas envie », ou « ça touche des zones très, très sensibles ». On joue avec ça, un comédien, il joue avec ça. Mais on n'est pas là pour autant pour faire du psychodrame ou pour surjouer, voilà. Donc, il faut vraiment trouver la justesse, et ça se fait progressivement. Il faut avoir confiance dans le chemin qu'on fait.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ?
Alors oui, la régie se saisit du micro. Merci Clément de nous permettre de poser des questions aussi à ton invité. Alors moi, je serais curieuse de savoir, Laure Mandreau, quel instrument vous jouez ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous jouiez d'un instrument. J'aimerais savoir lequel.
En fait, je joue de deux instruments. Le premier que j'ai un petit peu abandonné, mais il n'y a pas longtemps, je l'ai fait entièrement revoir. Donc ça veut dire peut-être que j'ai la velléité de m'y remettre. C'était quand j'étais plus jeune, je faisais donc partie d'un groupe folklorique qui s'appelait les Gars du Berry, très ancestral, créé au 19e siècle, et je jouais de la vielle à roue, ainsi que ma sœur et mon frère qui joue de la cornemuse. Voilà. Donc cette vielle à roue, j'en ai une, je l'ai faite réparer il n'y a pas longtemps, et cet été, je me disais, ce serait pas mal que je joue une petite bourrée, voilà, parce que je pense que j'arriverai à me souvenir encore de ce que j'avais travaillé quand j'étais plus jeune. Ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo, après il faut retravailler, mais quand on a un peu pratiqué, voilà. Et le deuxième instrument, et là j'ai réussi à me faire plaisir plus tôt, j'ai repris le violon, parce que j'en ai fait pendant 7 ou 8 ans dans mon enfance, mais avec cette vie théâtrale un petit peu folle, parce qu'il faut un peu se battre quand même pour vivre de ce métier, puisque moi je n'ai jamais fait que du théâtre, j'ai vécu du théâtre et je vis encore du théâtre. J'ai repris le violon avec un prof l'année dernière, voilà, donc c'est ma deuxième année où je gratouille du violon, mais avec plaisir, donc je gratouille humblement de mon petit lieu, de mon petit savoir violonistique, voilà. Mais c'est un pur bonheur de réactiver des plaisirs que j'ai eus quand j'étais enfant, ou parfois même des déplaisirs que j'ai eus enfant, parce que ce n'était pas forcément facile. Quand on apprend le violon, ça grince un peu pour les gens autour, et puis pour soi, on sent que ça n'avance pas toujours autant qu'on veut. Mais en tant qu'adulte, on comprend plus vite les choses, et je pense qu'on peut bien progresser. C'est une chance d'avoir eu déjà un embryon de formation plus jeune, voilà.
C'est-à-dire que vous êtes à la fois le vielleux et le violonneux ?
C'est ça, mais je ne peux pas jouer des deux instruments en même temps.
Alors moi, j'avais une autre question sur la respiration, parce que bon, je me disais, on va voir si c'est des instruments avant dont elle joue ou pas. Et donc, j'aimerais savoir, à votre avis, quand on est sur scène, quand on est au théâtre, quelle est l'importance de la respiration ? Est-ce que dans les ateliers que vous donnez, vous apprenez aux gens à respirer ?
Alors oui, il y a une part vraiment technique qui est indispensable. Je le vois par exemple en ce moment, je suis en train d'aider une jeune femme qui veut passer le concours de la magistrature. Et la première chose que j'ai vue, en fait, quand elle m'a parlé, je lui ai dit « Est-ce que vous êtes fumeuse ?» Elle dit « Oui, ça se voit, ça se sent. » Elle pensait que je sentais le tabac qui pouvait s'échapper d'elle, si je puis dire. Et j'ai dit « Pas du tout, c'est votre respiration qui est un indice pour moi. » Elle avait une respiration très haute, parce que quand on inspire, eh bien, on prend ça dans les poumons, et plus on fume, plus on a une inspiration courte. Et donc, je la fais travailler, et je le fais aussi en atelier, sur l'expiration. C'est essentiel, en fait, d'avoir une respiration. Moi, je sais que je peux parler extrêmement longtemps sans avoir à reprendre ma respiration, parce que c'est placé. Je peux faire bouger mon diaphragme et puis vous parler encore quelques instants sans reprendre ma respiration et ne pas crever devant le micro. Voilà. Donc ça, c'est important et ça se travaille parce que on a la même respiration que les chanteurs, c'est exactement la même. Donc qui peut le plus peut le moins, mais c'est indispensable de travailler cette respiration et on ne peut la travailler que si on est pacifié, en fait. Donc si on n'est pas relaxé, si on n'est pas à l'aise, quand on a peur, vous avez remarqué la respiration qu'on a. On a une respiration saccadée. Enfin, tout d'un coup, on est en état d'alerte. Donc, une respiration profonde et large, ça ne vient que par la relaxation. On ne peut relâcher son diaphragme que si on a conscience de son corps et qu'on sent... Moi, j'aime bien l'image d'une espèce de lac à l'inspiration. J'ai l'impression d'être soit un accordéon qui s'ouvre, soit un lac qui se remplit d'une eau calme. Voilà. Et donc, ça se travaille, vraiment. Et ça s'apprend. c'est notre respiration de bébé qu'on oublie, et on l'oublie souvent parce que on a plein de raisons d'être stressé. Ne serait-ce que tenez-vous droit, tenez-vous droit, ça veut dire que pour se tenir droit, qu'est-ce qu'on fait? On met en jeu un peu ses abdominaux, et quand on met en jeu ses abdominaux puis qu'on les tient, on respire en haut. Et cette respiration-là, pour le théâtre, elle n'est pas bonne du tout parce qu'elle est totalement insuffisante. Voilà. Mais tout ça, ça s'apprend tranquillement.
Alors, respirer comme les chanteurs, justement, me vient une autre question. Est-ce que vous aviez déjà eu la tentation, Laure Mandrot, peut-être de faire quelque chose qui serait du texte chanté, comme de l'opéra bouffe, de l'opérette ou quelque chose comme ça?
Alors, pas vraiment, mais on a eu l'occasion de chanter dans des spectacles comme Les femmes dans la guerre de 14. On avait pris des chants qui nous tenaient à cœur et on les a chantés à trois voix. Donc, il m'arrive de chanter. Puis j'ai eu la chance de faire du chant choral quand j'étais enfant. Mais je ne suis pas du tout une chanteuse. Non, absolument pas. Et puis, je ne pense pas avoir vraiment la velléité de chanter. J'y pense parfois, mais... Non, ça ne fait pas partie des grandes envies de mon existence. Tout comme quand on pose la question de savoir, vous qui mettez en scène, etc., est-ce que vous écrivez? Je n'ai absolument pas envie d'écrire. Voilà. Voilà, je réponds à côté de la question, mais c'est les non-envies. Il y a tellement de choses, au niveau de l'écriture, tellement de choses passionnantes que moi, j'ai plus envie de lire que d'écrire. Voilà. Et pour le chant, c'est pareil. Je suis absolument envoûtée, notamment par la voix de Maria Callas, que j'avais découvert il y a très longtemps, quand j'étais ado, et elle m'avait bouleversée, cette femme. Et je reste une grande, grande amoureuse des voix d'opéra.
Et une dernière question pour ton invité, Clément. Donc, vous nous avez parlé de plusieurs auteurs, donc Sand, Balzac... Molière, donc moi je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous plaît plus chez ces auteurs-là et que vous ne trouvez pas peut-être chez des auteurs du 20e ou du 21e. Parce que, par exemple, pour les snobs, la première pièce qui me vient en tête, c'est Yasmina Reza Art. Par exemple, là, il y en a un beau trio. Du coup, pourquoi plutôt des auteurs plus anciens?
Alors, Art de Yasmina Reza, ça a été fabuleusement monté. C'est une pièce qui est vraiment super. Donc, je n'ai rien contre le répertoire contemporain. Mais ce répertoire contemporain-là, en tout cas, Reza, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très connu. Il n'y a pas besoin de défendre cet auteur-là. Je trouve qu'il a bien pignon sur rue. Mais ce que j'aime beaucoup dans les auteurs du 19e, c'est déjà la langue. La langue est extrêmement... elle est charnue, elle est d'une extrême richesse. Et donc, moi, ça me procure des sensations. Même les descriptions de Balzac, moi qui aime beaucoup Paris, quand on lit un roman de Balzac qui se passe à Paris, la première chose qu'il fait, c'est d'écrire pendant 15 pages les rues de Paris. Et moi, très souvent, quand je suis allée à Paris, j'avais le nez en l'air pour regarder des balcons. Voilà. Donc, c'est peut-être ma sensibilité, parce que j'ai une grande sensibilité à l'architecture aussi. Donc, tout ça vient un petit peu en choc avec mes préoccupations personnelles. Donc, je n'ai pas du tout peur des grandes descriptions de Balzac. Je les aime et j'adore cette science du détail qu'il a. Et moi, je trouve qu'il est très cinématographique. Donc, il faut se donner la peine de le lire. Mais en fait, on a des images qui se forment à l'instant, quoi. Voilà. Donc, peut-être que c'est ce travail de l'imaginaire du lecteur qui me plaît beaucoup et qui me semble être encore plus foisonnant sur les auteurs du 19e que sur les auteurs contemporains. Voilà.
Merci.
Eh bien, merci Laure Mandrot d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de pouvoir vous rencontrer et d'échanger avec vous.
Merci à toi, Clément. C'est extrêmement agréable déjà de te rencontrer parce que c'était tout à fait improbable. Et ça s'est rajouté dans mon programme, mais d'une manière délicieuse. Et merci beaucoup de ce moment passé ensemble.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et pour se quitter, on va écouter Maria Callas. Pourquoi pas? On va écouter Casta Diva.